France Inter.
Il n'y a pas de lumière municipale, donc la nuit est à peu près sereine. Enfin, c'est assez en contre-jour pour voir la silhouette de l'arbre. C'est très beau une silhouette d'arbre la nuit, hein, comme ça.
CO2, mon amour.
Mais là, on parle. Mais si on se tait, on entend derrière les sauterelles. Et ça, c'est apaisant. C'est pas la peine d'aller faire des stages de yoga. Il n'y a qu'à s'asseoir ici, tranquillement, fermer les yeux. Et ça, ça calme. On dirait une respiration.
Denis Chesson, sur France Inter.
De manière générale, on parle trop.
Et bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Mélissa Etroit à la technique, notre collaboratrice c'est Camille Blanès, et c'est Xavier Pestuggia qui réalise l'émission. Alors, quel mot écrire pour cette rentrée des classes? Rentrée des classes, sortie des glaces. Celles encore nées, achetées sur la plage. Celles qui naissent et descendent des montagnes. C'était la commémoration du glacier de Sarenne, porté disparu il y a 3 ans. Mais la construction bat son plein en grimpant l'Alpe d'Huez. Celle du glacier des Bossons, dont je vous raconterai l'histoire, car ça fond et prépare de nouveaux territoires. Pourrons-nous demain encore nous regarder dans la glace? Pendant ce temps, à l'aude du cinquième jour, les brûlures de notre inaction enflammèrent l'été. Et même si un salopard incendiaire en est la clé sur nos territoires, on a quand même laissé filer le béton, les forêts, les drainages, les sols assoiffés. Ils ne sont plus adaptés. Alors ce ne sont pas des cathares qu'on a brûlés, des hérétiques écologistes. Non, ce sont les joues du vent sur les corbières qui ont calciné nos imprévoyantes vies chauffagistes. Car cette brûlante violence, c'est nous. Humanité réchauffante depuis 150 ans et pas la faute à pas de chance. Venez dans l'Aude, c'est fort, c'est beau, c'est puissant, faut les aider, tout n'est pas perdu ni brûlé. Alors quel mot pour cette rentrée d'Inter, pour sauver l'essentiel? Trump déroule un tapis rouge sang à Poutine, les savoirs universitaires, scientifiques, les satellites qui nourrissent le moulin des données climatiques sont dérangeants. Allez, fermez, déplacez-les et là aussi brûlez tout. Cassez le thermomètre et ne plus être que sur la nef des fous. Le populisme ne gagne pas, il triomphe. La soif de plastique plastifie notre entendement, nos boyaux, nos corps, et fait glisser dessus nos colères impuissantes face aux pays, aux barils d'or qui nous tiennent en laisse. On ignore les limites planétaires, eh oui, la Terre est un tiroir-caisse. La Duplomania, avenir de notre fuite en avant agricole, garantissant la santé des groupes chimiques, l'extension des usines à animaux, l'appropriation de l'eau et de bassines privatisées, construites aussi avec notre argent, eh ben, il y a quand même eu une petite noisette dans la chaussure. Merci madame d'avoir soumis cette pétition. Continuons tous à croquer les belles pommes de la sorcière de Blanche-Neige. Alors une bascule aussi irréversible est enclenchée en Antarctique. Oui, mais c'est loin! Oui, mais c'est quand même, ça va impacter tout le monde. Ouais, mais en tout cas, c'est loin. L'océan risque de se mettre en grève. Bah, j'en peux plus de vos excès de carbone. Je ne veux plus bouffer toutes vos erreurs climaticides. Quel oiseau me prêtera sa plume pour écrire ces mots? Mon ami Pierrot, reste sur la Lune, sauf quand ils viendront y coller des data centers et de la pub. Là, Pierrot, tu embarques Colombine et tu te casses. Tout au long de cette saison, encore une fois, je vous emmènerai dans un bout de nous-mêmes qui s'appelle la nature. Dans le beau, ben oui, entre 2 logistiques entrepôts, 4 zones commerciales, 3 friches industrielles, 12 parkings, une porcherie à 3000 places, et ben il y a encore du beau. Ce truc comme l'amour qui échappe au rationnel, au tableau Excel. Et il y aura des femmes et des hommes qui agissent, pensent en dehors des autoroutes. Faute de nous guérir de cette société merveilleusement décadente, vassalisée, bouffée par le court-termisme, capable de détruire sans relâche ce qui la fait vivre, ce beau nous soigne, nous aide à nous tenir droit, à chercher la lumière tel un arbre, ivre de soleil. Alors cette dernière année encore, m'a promis, je vous emmène sur ces minuscules bouts de terre, cette terre qui est parfois sacrément si jolie. Allez, je vais vous offrir donc une soirée de merle alors. Et oui, on part dans l'Isère avec Patrick Deschamps, donc un moment de grâce, vous allez voir de savoir léger, un soir et même une matinée sublime.
Honey, even famous, I'm your.
Joy Crocs sur France Inter, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Venez, prenez l'air, vous allez vous faire du bien. C'est le soir, nous sommes dans l'Isère.
Alors, on est au-dessus de mon petit hameau, à Sainte-Marie-d'Aloire. On est en dessous de la Chartreuse. La nuit est en train de tomber doucement. On entend les sanglots longs des violons de l'automne, c'est-à-dire les sauterelles. Et là, c'est juste le moment des 3-8. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui ont fait leur travail dans la journée, et maintenant, ils rentrent se coucher. Et cette grosse boule noire qu'on voit devant, c'est un marronnier. Pour l'instant, il est vide. Mais il y a des merles qui arrivent d'un peu partout. Et en fait, c'est un dortoir de merles. On sait qu'il y a des dortoirs d'oiseaux, hein, parce qu'ils dorment bien quelque part. On sait que, par exemple, que les étourneaux, quand ils arrivent, ils s'abattent sur un arbre ensemble, ça fait des centaines d'oiseaux dans l'arbre, tout ça. Mais on ne sait pas trop pour les merles. Et j'ai donc constaté qu'il y en avait un qui rentrait, puis deux, puis trois, puis quatre. Et petit à petit, l'arbre qui est vide, eh ben, il se remplit et ils arrivent un par-ci, un par-là, de tous les horizons, comme ça.
Hop là, encore un qui passe.
Et juste au moment où les merles se couchent, il y a les chauves-souris qui sortent. C'est-à-dire qu'elles vont assurer le service de nuit. Donc il suffit de se poser et puis on compte. Et j'en ai compté jusqu'à 52 quand même.
L'Isère nous a donné Stendhal, Berlioz, Frédéric Dard, Fugain, Calogero, ceux que j'oublie, et aussi Patrick Deschamps. Alors, l'homme vit, pense et est lui-même aussi nature. Il agit pour elle et avec elle, sans rien mythifier, mais en observant, en apprenant, en comprenant son fonctionnement. Et alors le gars, c'est un ovni, parce qu'en plus, il ne connaît même pas la composition de l'équipe de France de foot. Eh ben ouais. Mais les liens entre les insectes, les haies, oiseaux, arbres, sols, rivières, rapaces, mammifères, les sources, les marronniers et les merles, ça, il connaît. Et il sait transmettre, raconter en humain et comédien de métier qu'il est. Nous sommes dans ce beau département de l'Isère. Alors, vous avez, nous sommes au pied de la Chartreuse, mais c'est vrai que vous avez des lieux absolument incroyables. Vous avez le l'Oisan, vous avez une partie du Vercors, vous avez le Trièves, vous avez les terres froides, etc. Là, nous sommes donc dans le Grésivaudan, Sainte-Marie-d'Aloye. Il faisait une nuit chaude, ambiancée par les grillons et les merles. C'est notre première page nature de la saison. Suivez-nous, c'est gratuit. Et puis, un soir de merles alors et de grillons, ça peut pas faire de mal.
Il n'y a pas de lumière municipale, donc la nuit est à peu près sereine. Enfin, c'est assez en contre-jour pour voir la silhouette de l'arbre. C'est très beau une silhouette d'arbre la nuit, hein, comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de lune. Et on voit des silhouettes. Alors, on reconnaît bien une silhouette d'oiseau et une silhouette de chauve-souris, bien sûr. Mais... Donc, de temps en temps, il y a un merle qui arrive. Et alors, on entend des petits glouc-glouc, puis ils cherchent leur emplacement dans l'arbre. Donc, il y a des frémissements, on sent qu'il y a des feuilles qui bougent, on sent que c'est vivant, quoi. Puis cette boule qui paraissait vide... Bah en fait, elle est remplie. C'est plein de vie.
Et en fait, tout ceci, vous et nous, fait du bien. C'est-à-dire que, après, je ne sais pas, une journée, d'aller se poser là, comme ça, et de regarder la vie qui continue, quoi. Mais autrement.
Ah bah là, c'est la paix totale. On est au mois d'août, je suis quasiment tout seul dans le quartier. Personne, pas de bruit. Alors, les bruits de la journée se sont estompés, quoi. Il y a des travaux, il y a des constructions qui se font en bas. Puis alors, surtout, toute la journée, il y a les bruits de la campagne, c'est-à-dire les débroussailleuses, les souffleuses de feuilles mortes, les tronçonneuses, les disqueuses, tout ça, parce qu'il y a des travaux juste à côté. Donc maintenant, tout ça, c'est rentré. Et enfin, on a le silence et la paix. Enfin, c'est jamais du silence, hein, non. Parce qu'on peut très bien entendre une chouette, parce qu'il y a des chouettes chevêches en bas. En fait, il peut tout se passer. Et puis, on voit passer des chauves-souris. Alors, on voit passer au moins deux espèces, là, parce qu'il y en a des très petites, sans doute des pipistrelles communes.
C'est la plus petite.
Des beaucoup plus grosses, qui ont un vol un peu plus lourd, qui nous passent des fois au-dessus de la tête.
Alors là, tout est agencé, c'est-à-dire qu'on va avoir les premières étoiles qui vont sortir.
Ça commence à se piqueter, là. Il n'y a plus d'avion. Il y a encore quelques insectes. Alors, c'est quand même extraordinaire. Hein. Il fait très chaud. On sort de la maison, toute fenêtre ouverte. Il y a encore les lumières et il n'y a pas un papillon de nuit. Alors qu'il y a quelques années en arrière, tu mettais la lumière, tu ouvrais une porte, au bout de 10 minutes, tu avais plein de papillons de nuit. Alors évidemment, ça rentre dans ma parano personnelle, je me dis c'est vrai, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus d'insectes, c'est vrai. Et pourtant, quand le voisin est là, il a sa lumière allumée, une belle lumière au néon blanche, comme ça, et on entend les insectes qui se font prendre dans son grilloir à insectes. Chic, chic, ce bruit abominable, comme ça, toute la nuit. Donc lui, il en a des insectes. Et la preuve, s'il y a les chauves-souris, c'est qu'elles ont à manger.
Vous savez qu'ils ont trouvé une chauve-souris ici récemment. Je parle de l'animal, celui qui vole la nuit.
Je le sais, en effet.
Regardez ce qu'ils disent dans ce magazine. Le ministère de la Santé déconseille fortement à quiconque de s'en approcher. Certaines auraient la rage.
Eh bien ça, là.
Mais malgré tout, depuis une quarantaine d'années quand même que vous connaissez ces lieux par cœur, vous avez quand même vu une disparition quand même de très nombreux oiseaux, et en particulier les insectivores.
Ben les insectivores purs, oui, bien sûr, ils morflent, parce que si on regarde par exemple un plan d'eau, un étang, les délaissés par exemple, ça sont des remontées de la nappe phréatique, eh ben on fait le tour, on ne voit pas un seul insecte aquatique. Les dytiques, les nepes, les notonectes, tous les animaux qui vivaient dans les étangs, on ne les voit plus. Les girins, tout ça, ça vivait, et ça mange des larves de moustiques. Donc, il ne faut pas s'étonner non plus qu'on soit envahi de moustiques, parce qu'ils n'ont plus de prédateurs. Heureusement, il y a les chauves-souris qui s'en chargent.
Alors, d'une façon, on va dire plus générale, cette plaine du Grésivaudan, où on voit beaucoup de maïs, où on voit beaucoup de noyers, qui sont quand même les deux cultures, on va dire, principales, est-ce que tout ceci, plus quand même d'autres choses, d'autres facteurs, mais ça ne doit pas aider forcément les oiseaux insectivores?
La plaine, c'est de l'agro-industriel à fond la caisse, depuis 50 ans, on peut dire, hein. Et traitement. Bon, on traite avec des produits où il y a quand même des têtes de mort sur le bidon. Donc au bout d'un moment, ça doit bien avoir une raison quelque part qu'il n'y ait plus d'insectes. Hein? Parce que quand on voit des hectares entiers de noyers industriels, vous avez des arbres alignés, vous avez une ombre froide à l'intérieur, c'est vide, vide de vie. C'est tondu, c'est traité des fois. Bon, il y a un peu moins de Roundup maintenant, mais c'est girobroyé, donc il n'y a aucune vie possible. Par contre, si, il y a des buses, parce qu'il y a des campagnols. Alors les buses, elles se faufilent sous les branches et puis elles chassent les campagnols. De toute façon, s'il y a des buses, c'est qu'il y a à bouffer, il n'y a pas de problème. Mais c'est un paysage qui est terrible. C'est le même paysage qu'il y a dans la Basse-Isère. C'est des grandes forêts, des alignements de noyers industriels. Bon, puis voilà. Où est la biodiversité là-dedans? C'est pas possible. Alors quand il y a un marronnier comme ça qui a survécu, ben, on peut croire qu'il est vide. Puis non, on s'aperçoit qu'il est plein. Il est plein d'une trentaine, une quarantaine de merles. Donc, je peux savoir, en comptant les merles qui arrivent, un couple, là, tac, ouais, un par un. Alors, il y a des petits cris spéciaux quand ils arrivent. Eh bien, on a une vision du nombre de merles qu'il y a dans le secteur.
Je ne vous ferai pas de mal. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous faire peur. Mais j'ai eu de telles émotions. Oh, vous chantez.
Patrick, qu'est-ce qu'ils disent? Vous qui parlez un tout petit peu le merle.
Je parle très mal le merle, mais je sais que quand ils se mettent en mouvement, qu'ils se préparent à rentrer dans ce gros marronnier, bah, ils ont des petits touc-touc-touc ou des petits gloucs comme ça, très très doux. Et puis après, ils se chamaillent un peu dans les branches pour se mettre d'accord sur quelle branche tu prends. Moi, je me mets là, moi, je me mets là. Et en même temps, tiens, je rajoute un truc. Imaginons, parce que des lieux comme ça, il doit y en avoir partout, des grands arbres dans les parcs, tout ça. Imagine que d'un seul coup, c'est le 14 juillet, il y a un feu d'artifice. On n'imagine pas le stress.
Panique à bord, là.
Hein, imagine qu'il y a un feu d'artifice, là, derrière, qui s'explose, là. On n'y pense pas, à ça.
Comment ils dorment, ces oiseaux?
Ils ont un nerf qui fait que la patte se serre autour de la branche, puis ils ne bougent pas. Ils dorment en équilibre, voilà. Et des fois, la hulotte utilise ce fait-là, elle vient frapper sur les branches, et ça fait partir les oiseaux et arrive à en choper.
Ah, alors là, juste un tout petit peu plus loin du marronnier, il y a quand même ce frêne qui a un port extrêmement élégant. Et celui-là, il vous plaît bien parce que c'est d'autres oiseaux qui viennent l'habiter.
Oui, oui, les frênes comme ça, ce sont les frênes où il y a des pinsons des arbres, des verdiers, des chardonnerets, parce que c'est un arbre de haute tige. Mais surtout, il y avait un frêne ici qui était très beau, qui était un peu sec. D'ailleurs, il a fini par mourir. Et il y avait des branches mortes en terminaison du houppier. Et il y avait un faucon pèlerin qui est dans le secteur et qui utilisait ce houppier pour se percher. Et comme le faucon pèlerin, quand il n'est pas en chasse, il est pépère, on pouvait l'observer une demi-heure, des fois, à se licher les plumes, avec le vent qui lui rembroussait les plumes, tout ça, bien pépère. Tu pouvais le voir tranquillement, tu pouvais le montrer aux enfants, tout ça, avec ses pattes jaunes, ses moustaches noires, tout. Très, très beau, très impressionnant, le faucon pèlerin magnifique. Vraiment un blason du Moyen-Âge, quoi, c'est ça. Et d'ailleurs, si maintenant on a tant à se plaindre des corvidés, c'est peut-être parce que dans des siècles et des siècles... On a tué tous leurs prédateurs.
Oui, parce que lui en est un.
Ah bah oui, faucon pèlerin, prédateur du pigeon. S'il y avait plus de faucon pèlerin, il y aurait moins de pigeons en ville. Il ne faudrait pas Bon, on a détruit l'équilibre, maintenant il faut le refaire. Ceci dit, quand vous avez des espèces qui deviennent rares, ça devient un problème, le prédateur. Parce que si un épervier, par exemple, il bouffe 10 oiseaux dans son mois, si il bouffe 10 oiseaux, mais qu'il y en a des millions, c'est pas un problème. Mais si c'est une espèce où il ne reste plus que 10 individus, là, ça devient un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On abat l'épervier? On ne peut pas régler. Il faut des années pour remonter cet équilibre-là. On a beau expliquer aux gens qu'autrefois, toujours c'était avant, ouais, oui, il y avait des millions de bestioles, puis il y avait des millions de prédateurs. De toute façon, il n'y a jamais trop de prédateurs, parce qu'un prédateur qui n'a pas à bouffer, il crève.
Juste rappeler que si vous souhaitez avoir des coccinelles, parce qu'a priori, il n'y a pas de prévention quoi, sur les coccinelles, on aime cet animal, la bête à bon Dieu, on l'aime bien. Eh bien, vous avez intérêt à avoir des orties.
Parce que sous les feuilles d'ortie, il y a des pucerons.
Et voilà.
La coccinelle est le prédateur du puceron. Mais le problème des coccinelles, c'est que tout le monde aime les coccinelles. D'ailleurs, je reparle que mon secteur, je ne parle pas pour les autres. Hein, mais ici, je connais bien, cette année, quasi rien aux coccinelles. Rien du tout. Des perce-oreilles, rien. Or ça, ce sont des prédateurs. Le problème, c'est que c'est comme pour les papillons. Les papillons, c'est très très beau, les papillons. Mais le problème, c'est que le papillon, avant d'être papillon, c'est une chenille. Et qui est-ce qui veut des chenilles, hein? Qui c'est qui sait reconnaître une chenille dans un buisson d'ortie? Il y a des petites chenilles noires dans les orties, ça fait des gros cocons, tout ça. Si on les esquinte, eh ben, ce sont des pans du jour ou ce sont des petites tortues qui ne vont pas pouvoir vivre. Voilà. Et quand on passe les pareuses ou la débroussailleuse dans un tas d'orties, eh ben, ces bestioles disparaissent. Voilà.
Alors Patrick Deschamps, donc, si on a ici malheureusement quasiment plus d'oiseaux insectivores, les autres, les granivores, ça marche pas mal. Moi, j'ai vu beaucoup de moineaux.
Et pour cause, parce qu'il n'y a plus que des moineaux. Enfin, ici, il y a merle, moineau, et puis tous les oiseaux qui savent profiter de tout. C'est-à-dire que ceux qui mangent autant de graines que des insectes, puis ils profitent de la manne que les hommes mettent autour des maisons. C'est autour des maisons qu'il y a le plus de vie, hein, parce que, évidemment, c'est là qu'il y a à bouffer. C'est toujours pareil. Mais je sais que, moi, ça fait 40 ans quand même que je suis ici, ça fait plusieurs années que je n'ai plus de gobe-mouche, que je n'ai plus de rouge-queue à front blanc, que je ne vois plus de bouvreuil. Il y a plein d'oiseaux qu'on ne voit plus. Le bruant jaune, on ne le voit plus. Les grimperons, on en voit très peu. Les sittelles, même, on n'a presque pas vu cette année. Et on voit une dizaine d'espèces. Alors, beaucoup de corvidés, beaucoup de pies, beaucoup de geais, beaucoup de corneilles. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a massacré leurs prédateurs pendant des années. Les rapaces ne sont protégés que depuis 1976. Et encore, il faut voir ce qui se ramasse dans les centres de soins, comme oiseaux plombés.
Tu vois les étoiles, là?
Où?
La grande ours, là.
La grosse?
Oui. Hein? Juste au-dessus du cabanon où on vend les merguez.
Oui.
Et ben, au début de la saison, elle était là.
Ouais.
Maintenant, elle est là.
Mmh.
Et quand on sera parti, elle sera toujours là.
Et puis au-dessus de notre marronnier, nos merles quand même. Là, ça sort, là, de plus en plus.
Ah ben, ça picote, hein, de plus en plus. Et puis, il y a aussi encore des étoiles filantes qui traînent. Tiens, il y en a une qui passe.
Ouais.
Ah, ça, alors là,
incroyable.
T'as fait un vœu? Ah,
ouais.
J'ai fait un vœu, qu'il y en ait d'autres. Et là, on a le bouclier d'Orion, là, les trois étoiles alignées, avec Rigel et Bételgeuse. Ça fait comme une navette, là, comme ça. Et puis, dans l'autre axe, là, vers le nord, il y a la grande ours, puisqu'il y a l'étoile du berger, le nord, il est là-bas. Et puis, il doit y avoir Cassiopée, là, par là. Moi, pour moi, c'est mes grandes favorites. C'est Orion, Cassiopée, et puis la grande ours. Et donc, la petite ours, l'étoile du berger, Vénus.
Et qu'est-ce qu'on fait quand on est très bien, mais qu'on a les yeux qui se ferme un peu?
Mais d'abord, on a mal à la nuque à force d'avoir la tête tournée en arrière. Puis moi, j'ai mal au cul parce que je suis assis sur les cailloux.
Oui, c'est ça. Bon, on va rentrer alors.
Eh bien, on va laisser passer la nuit. Restez avec nous et on va retrouver Patrick Deschamps au petit matin.
Au printemps de ma vie, je quitte mon père. La ville attend les petits rats des champs. Jolie fermière me dit où vas-tu? Monte derrière avec les laitues, les pieds dans le ciel, chez les hirondelles. Nous filons doux et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts, quel âge as-tu toi? Petit matin, nous voilà en ville. morceau de pain. La campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons danser au bal des oiseaux.
Allez, c'était un petit classique, bien sûr, le bal des piafs, Fersen.
CO2, mon amour.
La viande, elle est pleine de médicaments. Si ça continue, on va finir par aller acheter nos figadelli à la pharmacie.
Denis Chessou.
Alors que chez moi, on mange la charcuterie d'ici. Le cochon, il a grandi tranquille sous les châtaigniers. Je le connais depuis qu'il est tout petit. Ça me fait plaisir de le manger.
Sur France Inter.
Absolument. Bon, alors nous allons poursuivre ce voyage avec donc Patrick Deschamps. Nous sommes toujours dans ce beau département de l'Isère. La Chartreuse est derrière nous. Et là, on a passé la nuit. Oui, et c'est quoi? Eh bien, c'est le matin.
Il y a un jet qui est en train de se faufiler.
Hop là.
Puis là, je vais dans mon petit coin favori au-dessus du... Bon, on coupe tout, hein. On coupe les radios, on coupe la télé, on coupe toutes les informations. Puis on essaye de se décrasser la tronche. Et alors on monte. Où on longe la rivière, parce que en période de sécheresse, la rivière c'est important, parce que c'est le point de ralliement pour boire, pour se faire sa toilette et tout ça, donc on a des chances d'avoir des animaux. On s'assoit, et puis on observe, et surtout on ne bouge pas.
Ça s'appelle un petit affût.
Voilà, exactement, même pas un affût. Moi, tu sais, j'ai un frêne qui s'est cassé la figure, et il y a une énorme souche qui a basculé, et ça me fait comme mon rocher, donc je me... Parce qu'il faut toujours être un petit peu dominant pour voir ce qui se passe autour. Je suis assis sur mon rocher comme la petite sirène de Copenhague, sauf que j'ai pas un million de gens qui viennent faire des selfies autour de moi, donc je suis tranquille. Hein. Et donc je vais guetter ce qui se passe dans la famille Pigrièche, par exemple. Parce que la Pigrièche, elle est arrivée il y a le mois de mai. D'abord, le mâle est venu marquer le territoire, il a fait ses petits grec-grec, là, comme ça, dans les sous-bois. Et puis un jour, j'ai vu arriver Madame. Et puis c'est un endroit particulièrement propice parce qu'il y a des buissons épineux, il y a des aubépines.
Ça les adore, puisqu'après ils vont.
Des épines noires, il y a tout ce qu'on veut.
Ils vont pas les gentiment aussi leurs insectes qu'ils ont ramassés.
Le territoire à Pigrièche. D'ailleurs, c'est un coteau au sud, donc il y a des hirondelles qui rasent parce qu'il y a encore quelques planctons aériens qui se baladent par là. Et notre Pigrièche, ben, elle est perchée sur les hampes de bouillon blanc ou sur les roses trémières quand elle se rapproche des maisons. Alors donc il y a monsieur. Qui est très beau, hein, magnifique, avec la tête grise, le bandeau noir, le dos roux cannelle, la grande queue, il fait toujours des mouvements avec son croupion, comme ça, et puis ses cris caractéristiques. Et là, il se trouve que maintenant, ben, c'est la période où les petits sortent du nid. Donc si on y vient tous les jours ici, on voit petit à petit les choses évoluer. Un jour, on voit monsieur, un jour, on voit madame, puis au bout d'un moment, on ne voit plus madame. Elle est quelque part au fond d'un buisson épineux, quelque part. Et puis un jour, on voit monsieur, madame, puis un troisième, puis un quatrième.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils sont sortis du nid. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que sans bouger, on voit ce qui se passe, même sans jumelles. Parce que si vous avez une Pigrièche qui est perchée sur une hampe de bouillon blanc, par exemple, eh ben, s'il y a un oiseau qui vient, dès qu'il a chopé un acridien, une bestiole dans l'herbe, s'il y a un oiseau qui vient...
Ce qu'on appelle un acridien.
Acridien, c'est des sauterelles, voilà. Les criquets,
c'est la famille des sauterelles et des criquets. Voilà.
Dès qu'il a sopé un acridien, si on voit un individu qui lui ressemble, qui vient lui voler, c'est que c'est le petit qui réclame. Donc là, on sait que c'est la sortie du nid. Les petits ont éclos, ils sont envolés, et on peut marquer sur nos fiches d'observation que la Pigrièche est nicheuse. La Pigrièche écorcheur, il y en a d'autres. Ouais. Ici, c'est la Pigrièche écorcheur.
Dis-moi, moi ce que les dieux me réservent pour mon avenir.
Oh, le vol des hirondelles me dit que tu ne passeras pas toute ta vie dans ce village minable.
Mon mari en est le chef.
Il sera appelé vers de plus hautes destinées.
Alors, nos hirondelles, donc elles, bien sûr qu'elles ont besoin, on va dire, des granges, des maisons, etc., lorsqu'elles ne sont pas obstruées.
Ah, pas toutes.
Et qu'elles ont de la boue, mais voilà.
Rien n'est simple dans la vie.
Alors, notre rustique, là.
Alors, la rustique, elle, c'est celle qui avait l'habitude de nicher dans les étables, dans les granges, parce qu'elle était attirée. Il n'y a pas de mystère s'il y a des animaux. Quelque part, c'est parce qu'il y a à bouffer. Donc, pourquoi elle met dans les étables et dans les écuries? Parce qu'il y a des mouches, des temps et tout ça. D'ailleurs, ce serait peut-être un truc à étudier pour certains qui sont très ennuyés par les mouches et les temps qui amènent des maladies aux vaches, par exemple. Du temps où il y avait des hirondelles, il y avait forcément moins de mouches et de temps dans les étables.
Là, on a vu quelques rustiques. Là, c'en est une autre.
Alors, oui, c'est une autre espèce. Ça, c'est l'hirondelle de fenêtre, c'est ce qu'on appelle, qui a un petit cul blanc. Alors, si vous voulez voir si c'est la différence entre une hirondelle de fenêtre et une hirondelle rustique, c'est quand elle passe sur le fond vert, vous voyez très bien le petit croupion blanc qui fait comme un feu de position. Ouais. On voit très bien la différence.
Et hop, elle repart dans les bois. Donc, elle n'est pas forcément inféodée, on va dire, aux granges, aux habitations.
Elle est inféodée au bâtiment, mais pas de la même façon que l'hirondelle rustique. L'hirondelle rustique, elle rentre dans les étables, mais l'hirondelle de fenêtre, elle rentre rarement dans les intérieurs. Par contre, à l'appui des toits, sur les façades extérieures, c'est là qu'elles colonisent. Alors, il faut que l'habitat soit favorable, évidemment, parce que avec les nouvelles formes d'habitat, c'est très difficile pour elles de fixer un nid.
Il ne faut pas tuer les hirondelles, c'est un oiseau très utile, car elles attrapent d'un coup d'aile les petits insectes nuisibles. Je sais qu'elles font sur les fenêtres des choses pas très propres peut-être, mais pardonnez-leur, tout cela n'est rien auprès de ce que fait un humain.
Je suis posé sur mon rocher et j'observe, je vois tout ce qui se passe.
On y est arrivé, on est pas mal, là, effectivement.
On domine le secteur et de temps en temps, on a une petite surprise, par exemple un bruyant zizi qui vient chanter. Il y a beaucoup moins d'espèces qu'avant, c'est clair, il y a des oiseaux qu'on ne voit plus du tout. Cette année, par exemple, je n'ai pas vu de mouche gris, je n'ai pas vu de rouge-queue à front blanc. Et puis dans la plaine, alors n'en parlons plus, les alouettes, tout ça, on n'en voit plus du tout.
Ouais. Alouettes, gentilles alouettes, c'est
alors donc,
terminé.
Au lieu de chialer tout le temps sur ce qui a disparu, essayons de regarder ce qui reste encore. Une haie comme ça, il y a tout autour, il y a des buissons avec des baies. Donc les fauvettes à tête noire qui viennent se faire...
On les voit là, ça y est, là.
Elles vont se faire le plein, elles vont se faire des graisses pour être en forme pour migrer. Et c'est là où le problème va se poser, c'est que quand tu vas migrer, tu vas traverser la Méditerranée, puis tu vas traverser des zones très accueillantes comme la côte libyenne, le Liban, où elles sont joyeusement accueillies à coups de fusil, voire à coups de piège.
Wow, t'as une buse là. Hop là.
Là, il y a une buse. Enfin, il y a un couple de buses. Mais là, aujourd'hui, on voit qu'elle, là. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un rapace qui fait du vol à voile sous les nuages, profitant du vent, uniquement porté par le vent, sans aucun accessoire, sans aucun artifice. Quelle plus belle image de liberté on a là. Le plaisir de voler rien qu'en étant dans les ailes. Et voilà, ça. Une image de liberté totale.
Bon, qu'est-ce qui vous réjouit encore en ce petit matin, là, tout à fait?
Moi, ce qui me réjouit, c'est de découvrir des oiseaux qui passent et je vieillis, les arbres vieillissent. Et par exemple, là, ce vieux cerisier qu'on voit là, il est en train de dépérir, quoi. Il y a les branches de plus en plus mortes, il y a juste un peu le cœur qui est vivant. Et ça grouillait de mésange du temps où il y avait des cerises.
Il redonnera de la vie autrement, celui-là?
Oui, de toute façon. Le problème, c'est qu'en dessous, ce n'est pas des cerisiers qui poussent, c'est que des repousses d'acacia. Alors, si on n'entretient pas les repousses d'acacia, on aura une forêt d'acacia. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en redescendant, près de chez moi maintenant, on a des bananiers. Et même des bananiers incroyables, c'est que, on part avec la machette, on se croirait en Guyane ou en Guadeloupe.
Oui, peut-être pas complètement.
Dans le Grésivaudan, dans la Chartreuse, on taille le bananier. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'on a des fleurs de bananiers et même des bananes.
Ah oui?
Ah oui, mais ça devient délirant, quoi. Et à part ça, il n'y a pas de réchauffement climatique.
Je suis pas un rigolo et je serai jamais rigolo, Mireille. Vous savez pourquoi, Mireille? Parce que le monde, il n'est pas rigolo. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille? Les ours blancs qui deviennent gris, les glaciers qui deviennent des petits glaçons, les forêts qui brûlent, les koalas rôtis, vous trouvez ça rigolo, Mireille? J'ai pas envie de laisser un monde trop pourri à mes enfants. Vous comprenez, Mireille?
Mais vous avez pas d'enfants.
On se quitte avec quel oiseau là? Oh bah dis donc, si quand même, il est là, chardonneret.
Alors oui, bah, après, quand on descend, bah, y a tous les chardonnerets, parce qu'en ce moment, c'est sortie des nids, donc il y a les papas, les mamans, les enfants chardonnerets. On reconnaît les enfants chardonnerets, le fait qu'ils n'ont pas encore leur masque rouge. Hein? Mais quand on voit le vol traverser devant, là, vous avez des bananes jaunes, tiens, on parlait de bananes.
Oui.
Hein, y a des bananes jaunes, il y a deux taches jaunes sur les ailes qui sont très très visibles, même par transparence, quand vous passez au-dessus, on les voit. Bon, c'est les familles de chardonnerets. Alors c'est un petit champ un petit peu liquide, très flûté, là, qui est très agréable.
Ouais. Bon, alors celui-là, évidemment, il est gentiment braconné, mais alors, qu'est-ce qu'il est beau, une fois de plus.
C'est un des plus beaux fringilles d'Europe, chardonneret. S'il s'appelle le chardonneret, c'est pas pour rien. Hein, voilà. Et la grande cardère qu'on appelle le cabaret des oiseaux, parce que dans les selles des feuilles, il y a, quand il pleut, des petits lacs qui leur servent d'abreuvoir. Tout ça, c'est merveilleux. Donc, si vous n'avez pas de grande cardère, si vous n'avez pas de chardon... Alors, le chardon, évidemment, c'est la plaie de tous les maraîchers. Hein. D'ailleurs, il s'appelle le chardon maraîcher. Si vous n'avez pas ces plantes-là, vous n'avez pas les oiseaux qui vont avec. Parce qu'on a très peu d'oiseaux qui se nourrissent de bananes, ici.
Hein. C'est assez rare.
Qu'est-ce qu'on voit, là, sur le bananier?
Ça y est.
Une fleur de banane.
Ah, oui. Hein.
Et il y a déjà les bananes qui sont en train de se former, en haut.
Ah non, mais c'est vrai.
Ah, alors on y va à la machette, hein, parce que des fois le vent les casse et c'est pas très beau, les feuilles de bananier par terre. Alors on peut s'en servir pour envelopper la nourriture, mais en fait c'est bien, on va vivre sous les tropiques, c'est formidable ça. Mais là on parle, mais si on se tait, on entend derrière les sauterelles, et ça c'est apaisant. C'est pas la peine d'aller faire des stages de yoga, il n'y a qu'à s'asseoir ici tranquillement, fermer les yeux, et ça, ça calme, on dirait une respiration. Et d'un seul coup, les yeux se ferment et on roupille.
C'est peut-être pas mal quand même quand on parle, on n'arrête pas de parler de développement personnel, de coachs divers et variés.
De manière générale, on parle trop.
Ouais, moi, ça m'embête parce que je fais un peu de radio. Mais...
Eh ben voilà, c'est ça le problème, la radio. Même la radio. Moi, j'écoute la radio depuis que je suis tout gamin.
Oui.
Hein, c'est tout juste si je n'ai pas écouté Radio Londres.
Oui.
Mais c'est vrai que de temps en temps, la. Leur fermer la gueule, ça fait du bien.
Bon, ben, je vais vous laisser. Puis à très bientôt, Patrick Deschamps. On entend le coucou?
Non, je crois que tu prends le coucou pour une tourterelle turque.
Ah, c'était une tourterelle. Bon, d'accord.
Roucoucou. Trois coups, c'est la tourterelle turque. Si ça faisait cinq coups, roucoucou. C'est le pigeon ramier.
Ben voilà.
Voilà.
Et ben on a encore appris quelque chose. Allez, à bientôt, Patrick.
Au revoir, Denis.
Mais non, on se trompe pas. Ça, c'est la tourterelle. C'est le coucou. Ben voilà, c'est tout, faut le dire. Écoutez, je trouve que c'était pas mal, là, pour une. Hein, tranquillement, un bol de nature comme ça, merveilleux. Au milieu du climat actuel, ça ne peut nous faire que du bien, cette balade en Isère. Merci à Patrick Deschamps, merci à Mélissa Etroit, à Camille Blanès, notre collaboratrice, à notre créatif réalisateur Xavier Pestugia, qui a formidablement colorisé cette émission, à Thierry Dupin, qui a choisi les disques. La semaine prochaine, je vous emmène, oh là, on va vers le sud, on va en Camargue, on va au Vacarès. Ouais. Les temps, le Vacarès, ça veut dire effectivement les temps où pèsent les vaches. Voilà, on va découvrir donc ce merveilleux étang. Je peux vous retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky. Donc vraiment, vous n'hésitez pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter l'essentiel, c'est-à-dire une très bonne fin d'après-midi et une très belle semaine.